résonance. Une émission de résonance contemporaine sur Radio B, au microphone, Alain Goudard. Notre thématique, Invention à deux voix, vous propose des séries d'entretiens avec des personnalités du monde artistique, littéraire, philosophique, anthropologique, sociologique ou politique. Aujourd'hui, Invention à deux voix vous propose d'aller à la rencontre de Friedrich von Kirschbach, président de l'Association des Amis de la Garde à Bourg-en-Bresse. Friedrich von Kirschbach est originaire de l'Allemagne du Nord, de la ville de Schnickel, près de Kiel, où celui-ci a dirigé, notamment pendant de nombreuses années, le Centre international de commerce de l'ONU, basé à Genève. Friedrich von Kirschbach aborde, travaille, étudie les stratégies nationales d'exportation et politique commerciale, une carrière internationale qu'il conduit à travers le monde. Un homme passionné par l'échange, la rencontre avec l'autre et la culture représente un champ passionnant pour celui-ci. C'est ainsi qu'il fonde, par exemple, en 2002, avec des amis, un rendez-vous, les mardis littéraires. Puis on pourrait citer également le Tuesday Circle, une plateforme pour des discussions et des échanges interculturels périodiques dans la région de Genève. La musique aussi fait partie des centres d'intérêt de Friedrich von Kirschbach, puisqu'en 2003, il fonde également, avec des amis, un groupe vocal, le chœur de la chapelle de Riamont. Friedrich von Kirschbach.
Bonjour Alain.
Et pardonnez-moi d'avance un peu pour la prononciation qui de temps en temps peut m'échapper.
Aucun problème.
Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous recevoir ici, dans cette magnifique demeure du domaine de la Garde, à quelques minutes de Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, pour nos auditeurs les plus éloignés, dans laquelle nous avons installé nos micros pour cette nouvelle émission de résonance. Alors peut-être, commençons par là, Friedrich von Kirschbach, est-ce que le rapide petit portrait que j'ai esquissé tout à l'heure vous convient ?
Oui, tout à fait. C'est vrai, je suis né en Allemagne après la guerre. J'ai eu une enfance également dans la province, n'est-ce pas, dans un village. Mm. Mais après mes études d'économie,
oui.
Et mon doctorat en économie internationale, j'ai eu vraiment la chance de travailler pendant 30 ans pour les Nations Unies. Et ceci m'a permis de voyager beaucoup, de travailler dans une centaine de pays.
C'est ça.
Et en travaillant à l'étranger, bon, on apprend beaucoup sur d'autres cultures. Oui. Et en même temps, et peut-être quelque chose qui est encore plus important, on est forcé d'apprendre beaucoup sur soi-même. Mmh. Et alors, je suis vraiment très, très reconnaissant d'avoir eu cette possibilité. Oui, de travailler pendant finalement 40 ans un peu partout dans le monde. Mmh.
Alors, j'évoquais que nous étions chez vous, dans ce domaine de la Garde, et l'atmosphère, d'ailleurs, de la salle dans laquelle nous avons installé nos micros pour cette nouvelle émission d'Invention à deux voix, il y a une certaine ambiance qui nous fait déjà aussi nous dire que ce lieu a déjà une histoire, il a une biographie, et elle est certaine qu'elle nous remonte déjà loin, cette biographie, puisque certains documents d'archives peuvent permettre d'attester effectivement qu'en 1323, il y avait déjà quelque chose sur ce site.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai, on a eu une chance énorme parce qu'il y a 5 ans, ma femme Margaretha et moi, nous avons trouvé ce domaine et on est tombé amoureux tout de suite.
Tout de suite.
tout de suite. On avait cherché 3 ans avant.
Oui.
Et Marguerite avait toujours dit, non, c'est pas ça. J'étais assez mécontent d'elle. Mais finalement, on est arrivé ici en 2014.
2014.
Et puis, on a su que c'est ça qu'on avait toujours cherché.
Ouais.
Pourquoi? Parce que c'est un lieu qui est très accueillant.
Tout à fait.
Qui n'est pas du tout ostentatoire.
Tout à fait.
Mais qui est joli et qui crée un espace. Et c'est ça qu'on a cherché. Mmh. Alors, pour ça, on est très content d'être sur un lieu qui est à la fois historique.
Tout à fait.
Comme vous dites, c'est, en fait, au 14e siècle, ça faisait partie de Tosia, où il y avait un château de la garde. Mmh. Et puis, jusqu'à la Révolution, en fait, c'était surtout une grande ferme, en fait, une très grande ferme.
Une très grande ferme, donc.
Dans la presse. Et ça appartenait au château de Bouvan, qui est à 500 mètres d'ici. Il y avait un château qui existait jusqu'à la fin du XXe siècle.
Oh oui.
Et c'est uniquement après la Révolution qu'on a ici eu une première maison de maître. Mmh. Et puis, cette maison qui a été construite dans les années 1860.
Voilà, donc on sent qu'il y a toute une époque et en même temps, cette richesse de ce lieu, comme vous dites, magnifique, ouvert, à la fois ancré dans son passé, mais aussi ancré dans son présent grâce à son passé.
Oui, absolument. Et on adore cette vision, ces traditions pour demain, c'est-à-dire de se laisser inspirer par la tradition. Par exemple, il y avait un des premiers académiciens, Nicolas de Bâcher, qui en 1637 était un des premiers académiciens et qui était propriétaire de Bouvan.
Oui.
Alors lui, c'était quelqu'un où on peut uniquement rêver parce qu'il était quelqu'un qui a maîtrisé beaucoup de langues, qui était aussi à l'aise pour les sciences que pour le littéraire. Alors là, on a vraiment...
Effectivement, Belandier.
quelqu'un qui nous inspire.
Voilà, c'est quelqu'un qui nous inspire. Et puis, donc du coup, c'est finalement en cheminant les routes de l'Ain, qu'à un moment donné, avec votre femme, vous avez visité plusieurs lieux, j'imagine aussi, mais qu'à un moment donné, celui-là, il a vraiment résonné de manière très forte pour vous.
Exact. Alors, on a, comme toujours, on se donne les mauvais paramètres pour nos décisions. Pendant 3 ans, on a cherché autour de Genève et j'avais comme principe, il faut que ce soit en distance cyclable. Alors, on a cherché. D'abord, il y en avait très peu. Et deuxièmement, il fallait rajouter au moins une zéro pour les prix. et c'est uniquement par hasard, 3 jours après ma retraite, que pour offrir un programme intéressant à ma fille qui était venue pour mes derniers jours de travail, que j'ai dit, il y avait quelqu'un qui nous a proposé quelque chose à Bourg-en-Bresse qui est beaucoup trop loin de toute manière, mais pourquoi pas Et puis, 3 jours plus tard, je suis revenu avec Marguerite, ma femme, et c'était la première fois où elle m'a dit oui. Peut-être.
Et là, vous avez poussé ensemble la grille et vous avez cheminé jusqu'à cette demeure.
Exact. Et ça aurait pu être n'importe où ailleurs. Alors, on n'a pas d'abord choisi Bourg ou la Bresse. Maintenant, après 5 ans, ça fait exactement 5 ans que nous sommes ici, on est très, très content d'avoir atterri ici un peu par hasard, n'est-ce pas, dans la Bresse et à Bourg, qui, pour nous, maintenant, se révèle comme vraiment un lieu idéal pour notre projet.
Résonance sur Radio B, invention à deux voix, avec Friedrich von Kirschbach, président de l'association de la Garde dans l'Ain. Friedrich von Kirschbach, la musique, et particulièrement la musique vocale, c'est aussi un domaine aussi qui vous tient à cœur profondément. Et le choix, puisque c'est votre choix que nous venons d'entendre, l'œuvre que nous venons d'entendre, le prouve encore d'autant plus. C'est les célèbres motets de Johann Sebastian Bach. Ils font apparaître ces motets dans leur ensemble, une riche vie polyphonique, mais toujours naturelle, claire. Mais ces motets sont moins, je dirais, un exercice de virtuosité qu'un message spirituel, sincère, où l'engagement aussi individuel et collectif émeut toujours profondément. Et on le sent, même si ce n'est qu'un extrait donc de ce célèbre motet « Jesus, my Freund » que vous avez choisi. Il y a aussi toute cette force, alors à la fois, hein, j'entends sur les deux aspects finalement, de ce côté-ci, c'est-à-dire à la fois votre intérêt pour la musique vocale. Alors, vous êtes allemand, même si là, on a un compositeur allemand, mais je dirais qu'elle va bien au-delà de celle-ci. Hein. C'est pour qu'on ait tout de suite cette carte d'entrée, si je peux dire, que vous n'êtes pas arrivé non plus à une culture propre uniquement à votre pays d'origine, mais que c'est bien la musique vocale dans toute sa diversité et sa richesse qui vous intéresse. Et en même temps, il y a cette réflexion personnelle, cette recherche de soi, cette spiritualité aussi qui est là et qui peut-être aussi correspond quelque part à ce que vous êtes.
Oui, tout à fait. En fait, vous savez, dans le milieu protestant, le chant est très important. Il y a des gens qui considèrent la réformation comme un mouvement de chanteurs. Et Luther, comment dire en allemand, il a beaucoup apprécié la musique. Et ma mère, par exemple, pour ma mère, l'éducation de ses 6 enfants passait pour un degré important par le chant.
Par le chant.
Alors, on a toujours chanté ensemble. Le fait qu'on avait une voix pas très jolie n'était aucune excuse de ne pas chanter.
Bien au contraire.
Bien au contraire. Et c'était vraiment une façon de passer le temps ensemble, de créer également l'esprit d'être ensemble, de partager des valeurs qui étaient très importantes. Et ça m'a accompagné toute ma vie. Et pour ça, à un moment donné, j'ai chanté dans des chœurs, en dépit du fait que je ne chante pas très bien. Et
Que vous dites.
Et j'ai créé une petite cercle de chanteurs.
Voilà.
Pour le plaisir.
Pour le plaisir.
Ouais. Et personnellement, en fait, je connais peu d'activités qui sont aussi compréhensives.
Oui,
que le chant où c'est à la fois... C'est physique, c'est intellectuel, c'est normatif, c'est spirituel. Alors, il y a tout ça qui vient ensemble. Et après avoir chanté, même si on ne chante pas très bien pendant une heure, deux heures, on se sent toujours libéré et élevé.
Et là, il y a quelque chose d'important, effectivement, c'est-à-dire le oser pouvoir dire, le oser poser sa voix avec tout ce qu'elle est chargée. C'est-à-dire que du coup, effectivement, personne vient avec l'aspect physiologique qu'il a au monde et va être aussi en représentation avec les autres, avec le corps que nous avons, et va cheminer aussi avec celui-ci. Et que du coup, de pouvoir aussi faire que cette voix, qui va être une des manières d'exprimer ce que nous sommes, puisse participer à cette polyphonie au sens large d'un point de vue sociétal, mais aussi lorsqu'on parle aussi effectivement de l'aspect polyphonique et plus particulièrement vocal, une polyphonie sociétale mais aussi vocale, va trouver sa place aussi au sein de ce collectif, se trouver renforcée, puis en même temps exister parce que la voix de l'autre est différente. Et c'est vraiment une histoire de coexistence, coexistence partageable, qui vont faire, je ne suis pas le semblable de... On est semblable mais différent quand même avec nos spécificités, nos singularités à travers l'expression de notre voix.
Oui, et ce que je trouve tellement beau, c'est que ce n'est pas toujours nécessaire d'avoir des mots très sophistiqués, très élaborés, mais qu'on peut faire des belles choses avec l'autre, même d'une manière non verbale.
C'est ça.
Et je trouve que c'est pour la musique en général.
Absolument.
Et je crois que ça nous fait toujours très bien de temps en temps d'arrêter le flux
De la
de
pensée.
mots, de le cinéma dans la tête,
C'est
n'est-ce pas?
vrai.
Il y a plein d'autres, plein de techniques pour le faire,
Tout à
mais la
fait.
musique est probablement une des façons les plus efficaces pour mettre à côté toutes ces préoccupations chaotiques qui nous préoccupe, n'est-ce pas, tout le temps.
Mais peut-être aussi que la musique, et je joins tout à fait au propos que vous venez de nous faire part, peut-être aussi que la musique en elle-même, dans son côté éphémère de la chose de la musique, c'est-à-dire que du coup, elle part du souffle, il faut maintenir ce souffle, on part du souffle, on va venir au son, il va falloir pouvoir entretenir cette vibration, et en même temps, cette vibration, à un moment donné, fait appel aussi au silence, et je dirais que quelque part aussi la musique nous ramène à la condition d'homme et
Oui.
peut-être aussi à la fragilité humaine aussi
Oui.
complètement. Ce qui lui fait
Oui.
peut-être revêtir un sens, alors qu'on peut retrouver bien sûr dans d'autres arts, mais peut-être encore plus particulièrement avec la musique, de fait de son éphémère et de cette
Oui.
nécessité de l'entretien qu'elle nécessite aussi également.
Absolument. Et j'ai trouvé très joli quand un des musiciens, en fait indien, qui est passé ici, qui nous a expliqué que son instrument était la meilleure façon de s'approcher du silence. Et je crois que la musique est une façon également
Absolument.
de venir plus chez soi-même, d'arriver chez soi-même.
J'aime beaucoup cette idée de dire d'arriver chez soi-même.
Oui. Oui, moi aussi. Pour
Je...
moi, c'est une. Je trouve que, en fait, ça c'est un peu
Oui.
un des objectifs implicites, n'est-ce
Oui,
pas? Est-ce
oui.
que, est-ce qu'on ne pouvait pas créer un lieu qui favorise la possibilité d'arriver un peu plus à soi-même? Et bon, il y a beaucoup d'approches différentes, mais je trouve que, par exemple, la nature est une approche qui va
Bien
très
sûr.
bien. Pour ça, on est vraiment gâtés
Et
ici.
oui, on peut dire qu'on est entouré de nature.
On
Cette
est
maison est
vraiment.
vraiment entourée en plein cœur avec de magnifiques arbres, des espaces aussi naturels.
Exact, oui. Et ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup attirés. Et comme ça, on peut laisser dehors tous les autres aspects. C'est la nature, c'est la musique, c'est la réflexion.
Tout
Et
à fait.
alors notre projet consiste un peu à créer un espace où il y a la possibilité de poursuivre cette recherche de soi-même, la recherche de ce qui est peut-être un peu plus profond, pas du tout dans un sens religieux,
C'est ça.
mais plutôt spirituel ou humaniste.
Humaniste.
Thank you.
Résonance sur Radio B, invention à deux voix avec Friedrich von Kirschbach, président de l'association de la Garde dans l'Ain. Là, c'est de l'émotion aussi, Friedrich. Oui. Émotion forte.
Oui.
Et on évoquait justement, en écoutant ensemble cet extrait, et j'espère que, chers auditeurs, vous avez aussi partagé cette émotion, on faisait écho aussi à Eric Emmanuel Schmitt, et notamment son livre « Comment Mozart m'a sauvé la vie ». Et j'aimerais bien que vous, on évoquait tous les deux ensemble à ce sujet-là, voilà, le contexte de ce livre et le contexte de Eric Emmanuel Schmitt, qui était vraiment... où les goûts de la vie dans cet ouvrage lui échappaient, où il ne voyait plus les raisons finalement de poursuivre ce chemin, mais qui du coup se trouve dans le fait voilà, d'être là et d'entendre une femme sur la scène, comme vous le disiez tout à l'heure peut-être, pas, comment dirais-je, très agréable à regarder,
oui.
Mais qui d'un seul coup se trouve complètement chamboulé, bouleversé,
oui.
Par la voix et par la voix que nous venons d'entendre.
Oui, et c'est ça que je trouve fantastique dans ce livre d'Eric Emmanuel Schmitt, également dans ses autres livres,
oui.
Comment il montre comment la musique peut nous transformer. Mmh. Et en fait, ma définition d'art, c'est quelque chose qui nous transforme. Mmh. On a la décoration, on a l'amusement, tout ça c'est tout à fait à sa légitimité, mais l'art a la capacité de nous transformer. Et je trouve que Eric Emmanuel Schmitt, dans ses livres sur plein de, d'artistes, sur beaucoup de musiciens, par exemple sur Mozart, mais également sur Chopin, sur Beethoven, arrive à nous montrer comment la musique peut nous transformer. Et dans cette collection de chapitres, il a sélectionné une douzaine d'œuvres, et il décrit comment, il raconte pour lui-même comment ces œuvres lui ont transformé.
Là, c'est l'air de la comtesse, hein.
Exact.
Voilà,
oui.
Hein, dans les Noces de Figaro, et là aussi, on sent aussi comment ça a pu le bouleverser finalement.
Absolument.
Et comment du coup, ça la ramène en se disant, mais non, finalement, je ne suis pas au bout du chemin. Il y a peut-être encore une page à écrire, et je peux peut-être écrire cette page.
Exact. Et je trouve que ce potentiel de l'art, de la musique, mais également de la littérature, également des œuvres, des sculptures, de la peinture, on se prive de beaucoup si on ne se donne pas l'occasion de temps en temps d'être bouleversé par ces œuvres.
Et c'est vrai que vous avez raison, et je partage vos propos dans l'idée de transformation, de mise en mouvement, de mise en changement que va nous proposer, quelle que soit la démarche artistique. C'est l'être qui va se mettre en mouvement, c'est la pensée qui se met en branle et qui du coup met en espace de mouvement et de transformation de l'individu qui s'essaye, qui s'aventure, qui se perd, qui se retrouve dans cette démarche-là et qui du coup, et je crois que c'est aussi important dans votre démarche, le conduit petit à petit aussi à se mettre en capacité d'écouter ou d'accueillir, on pourrait aussi utiliser ce terme, quelque chose qui vient d'ailleurs, qui vient pas de soi, pour pouvoir un peu mieux se découvrir. Et en ce sens-là, vous aviez raison que nous avons écouté deux extraits musicaux qui sont vos choix et qui appartiennent à la musique baroque ou aux musiques classiques, mais que ça va bien au-delà, que ce n'est pas simplement, ce n'est qu'une facette de vous-même, mais qu'il y a d'autres facettes et que cette facette, elle est justement de cultiver cette capacité d'accueillir d'autres choses et des dimensions de l'art qui nous mettent en mouvement, qui nous transforment, exactement. Qu'elle soit de la musique du monde, qu'elle soit de la musique actuelle, qu'elle soit de la création. Voilà, c'est ce dénominateur commun, c'est-à-dire quelque chose qui met en mouvement l'individu, quelle que soit sa force et son énergie.
Exact, oui. Et alors, nous sommes très contents parce que depuis 5 ans maintenant, on essaie ici de partager des différents types d'art et on essaie de bénéficier un peu du fait que Margarete et moi, on a tous les deux travaillé pendant des décennies pour les Nations Unies. On a pu nouer des contacts avec des gens un peu partout. Et alors, maintenant, cette richesse avec laquelle on a été confronté d'emmener un peu ça ici. Par exemple, dans notre série de musique du monde, on a eu des concerts, mais qui nous ont vraiment bouleversés. Par exemple, des musiciens d'Inde. On a eu l'année dernière, une journée pour découvrir la beauté de la culture turque.
Mais oui.
À un moment où on parle uniquement des développements peut-être un peu difficiles
tout
politiquement en Turquie, de voir qu'il y a également là une tradition qui est si riche et stimulante.
Et c'est essentiel de dire que ça aussi, ça existe et qu'il faut le mettre aussi en exergue pour ne pas rester que simplement sur les informations que nous avons aujourd'hui, une certaine facette, et qu'effectivement, il y a ce devoir aussi, si on revient sur un plan plus politique, effectivement, que ces droits d'expression existent et qu'ils sont riches et qu'ils sont forts et encore
absolument
aujourd'hui très importants.
Oui, et je trouve que c'est tellement facile qu'on devient réducteur, n'est-ce
tout
pas ?
On
ne voit pas toute cette richesse. Et cette année, le 19 mai, on a eu vraiment la chance d'avoir d'artisans d'art qui sont venus des quatre coins du monde. Une famille de 6 personnes qui est venue de Yangon en Myanmar pour partager avec nous leur tradition dans des tisserands, et une femme d'Argentine, quelqu'un du Kenya, quelqu'un du Pérou, une femme qui a créé une coopérative de textile au Laos, et des chanteurs de l'Algérie, une instrumentaliste de la Tunisie.
Oui.
Et chaque fois, si on s'ouvre un peu, il y a un nouveau monde derrière. Et ça, pour moi, c'est toujours une façon de stimuler mon envie de vivre, ma vitalité, parce qu'on découvre des choses sont nouveaux, qui sont intéressantes, qui nous mettent en question, qui nous plaisent. Et alors, je suis toujours étonné que chacun de nous... seule chose dont on a besoin, c'est essayer d'ouvrir les yeux un peu plus.
C'est ça.
Parce que toutes ces choses sont disponibles, sont là. Et c'est à nous vraiment...
C'est nous déguiser les regards et d'ouvrir les
regards. Exact. C'est exactement ça. Et je suis, par exemple, étonné et impressionné par la richesse de l'offre culturelle ici à Bourg-en-Bresse, une ville moyenne. Mais si je regarde, par exemple, les expositions à Brou, tout ce qui se fait... En fait, la limitation, le facteur limitatif, c'est pas l'offre, mais c'est ma capacité d'absorber. Voilà.
Peut-être on pourrait dire aussi que avant la reconnaissance, il y a la connaissance.
Oui.
Et que du coup, la connaissance, sans savoir et sans conscience de ceci, que je suis d'abord exposé à l'autre et exposé à l'exposition de l'autre. Et que c'est dans ce rapport, finalement, de s'exposer les uns aux autres, les uns par les autres, que finalement, il y a le être avec qui va aussi pouvoir se mettre en place.
Oui, oui.
Et j'entends un peu ça dans vos propos, de faire que ces rencontres, ces moments d'échange avec des cultures différentes, de pouvoir ouvrir le regard au-delà de nos propres cloisonnements, de franchir les frontières, d'être dans les enchevêtrements, finalement.
Oui.
Et donc, ces enchevêtrements, vont créer de l'ouvert, vont créer de l'écart.
Oui.
Et là, donc, du coup, vous parliez de mise en mouvement tout à l'heure et de transformation.
Oui.
De ce fait-là, il va y avoir une transformation et il va y avoir une mise en mouvement.
Absolument. Et... si, pour moi et pour nous ici, je crois un des objectifs, c'est d'arriver à faire ça, pas d'une manière très, très focalisée, mais peut-être même un peu éclectique, pour pouvoir associer toutes les générations. J'étais très content cette année, par exemple, on a fait une visite guidée pour les enfants.
Oui.
Et on a découvert, n'est-ce pas, les galeries souterraines et les oubliettes et tout ça. Voilà, ça c'est une chose. Alors, toutes les générations... on est très content d'avoir les différentes nationalités ici.
C'est très important.
Aucun problème. Pour nous, on est très contents d'avoir les différentes expressions de nos vies, c'est-à-dire l'art et là, la musique, etc. Mais également des discussions politiques, également toute cette relation avec la nature. On a ici la chance d'avoir au parc une centaine d'espèces botaniques différentes.
Oui, c'est extraordinaire.
C'est extraordinaire et on se donnait un peu de peine de mettre des étiquettes en 5 langues.
C'était quelque chose qui était déjà présent sur le site, déjà cette diversité des essences et des arbres.
Absolument. Alors, la famille Chaussat de Montburon, qui était ici dès le 1820 jusqu'à 1939. Et il y avait, surtout fin du 19e siècle, plusieurs membres qui ont aimé la botanique. Et alors qu'ils ont planté des belles
essences. C'est vrai que c'était quelque chose du 18e siècle très important et du début du 19e très important.
Absolument. Oui. Ouais. Alors, on a par exemple un tulipier qui a 140 ans.
Ah oui.
Et puis, les dernières propriétaires avant nous ont travaillé avec André Guéraud qui a, ouais. Qui a
paysagiste
ouais. qui a refait un des parcs ici. Et puis, pour nous, une façon de nous approprier du domaine, c'était à vraiment essayer de comprendre les différents arbres. Pour ça, on se renseignait, on ne connaissait pas très bien. On a essayé d'apprendre les noms dans les différentes langues. Et maintenant, par exemple, on a eu presque chaque année quelqu'un qui nous a enseigné un peu comment mieux écouter les arbres.
Oui.
Alors, je ne savais pas que ça existe, mais non, c'est...
Il y a ouvrir nos capacités d'écoute.
Absolument.
Jusque-là.
Oui, et c'est toujours cette combinaison de d'abord bien regarder. Il y a alors une démarche scientifique. Mais il y a également l'intuition, il y a cette relation directe et les deux ont leur place.
Et je trouve ça vraiment important dans ce que vous dites. Et on voit bien que quelque part, voilà, cette ouverture humaniste aussi, parce qu'on pourrait le placer aussi, alors fait écho aussi à toute cette période de la Renaissance italienne.
Oui, absolument.
Voilà, le néoplatonicisme et à toute cette période-là, où aussi il y a cette dynamique très forte, ce moment sociétal où, effectivement, les arts, la politique, l'organisation de la société, l'organisation de la ville, de nouveaux mouvements, on parlait de mise en mouvement de l'individu vers d'autres, vers des émancipations. Aussi, on s'émancipe aussi à ce moment-là.
Oui.
Et les arts, la culture, la botanique, les sciences, tout ça sont en mouvement en même temps et vont créer des espaces nouveaux qui, bien sûr, se figeront peut-être un peu à d'autres périodes. Mais en tout cas, il y a aussi ce mouvement très fort. Et dans vos propos, je ressens aussi ce lien aussi avec ce côté humaniste.
Oui, et alors on pourrait très bien critiquer notre projet comme étant un peu éclectique. C'est certainement vrai parce qu'on fait uniquement des choses qu'on aime bien faire.
Voilà.
Et on n'est pas vraiment concentré sur une voie.
Un aspect précis.
Un aspect, oui. Mais personnellement, j'aime bien un peu de dilettantisme parce que ça vient de dilettard, d'avoir de la joie.
De la joie, absolument.
Et je crois que ce qui, c'est peut-être pas très moderne, mais je crois que dans une société qui est très, très professionnalisée, c'est super de quand même de se permettre d'avoir de joie avec dans des domaines qu'on maîtrise peut-être pas à 100%, mais de s'ouvrir à cela et de ne pas se heurter en disant « mais je ne connais pas assez, ça c'est quelque chose pour les autres ». Je trouve qu'on a vraiment toujours le droit de s'approcher, de s'ouvrir, d'essayer de comprendre tous les différents domaines. Et c'est ça qu'on essaie de faire ici.
Thank you.
Résonance sur Radio B, invention à deux voix avec Friedrich von Kirschbach, président de l'association de la Garde dans l'Ain. On continue bien sûr cet entretien, Friedrich von Kirschbach, et là encore une voix, René Fleming, je dirais avec cette célèbre pièce, La Ciampiaggia, mais aussi Handel. Et avec Handel, pour rappeler nos auditeurs, 1685-1759, il me semble aussi être un bel écho à ce que nous avons dit juste précédemment à cette écoute, dans le sens où, outre bien sûr l'homme qui a été Handel, le compositeur, mais il a marqué aussi par sa stature d'homme et aussi avec sa musique, parce que même à l'intérieur de sa musique, on peut retrouver aussi ces éléments-là. Cet esprit aussi de... tout à l'heure, j'exprimais d'être à l'écoute de ce qui vient d'ailleurs et pas de soi. Intégrer cette... c'est le premier Européen, finalement. Un des premiers Européens, même si de nombreux artisans, de nombreux artistes ont tout de suite voyagé beaucoup au travers des siècles passés, et notamment beaucoup à cette époque-là. Mais c'est quand même une des personnalités artistiques et musicales qui a aussi, on le retrouve dans de nombreux pays, qui a aussi cette dimension, si je peux dire. Vous seriez d'accord avec cette vision-là ?
Oui, absolument. Et je crois que c'est un point qui est vraiment très important. Parce que je suis convaincu que nous ne réalisons pas combien nous sommes tous des Européens. Le 8 mai... de cette année, on a organisé ici une soirée avec le titre « Sommes-nous des Européens ?» Et alors, on a réfléchi ensemble que souvent, on oublie d'abord combien nous sommes tous parentés. En fait, Alain, même si je vous déçois, nous sommes des cousins, beaucoup plus proches qu'on ne le pense.
Oui. Mais j'en suis convaincu.
Oui. Je crois que on oublie souvent que cette mobilité dans le passé qui fait que, par exemple, dans ma famille, j'ai en fait un peu toutes les nationalités d'aujourd'hui d'Europe, et ça sera la même chose pour vous.
Bien sûr.
Et je crois que c'est très important de réaliser cela pour plein de raisons. D'abord, dans ma biographie, par exemple, quelle chance que j'ai que je suis le premier depuis des milliers d'années qui n'a pas vécu de la guerre majeure en Europe. Quelle chance que j'ai
C'est vrai.
De pouvoir vivre en dépit de mon accent, d'un passeport qui n'est pas un passeport d'ici, comme déplacé, comme migrant, je suis un migrant, n'est-ce pas, de pouvoir vivre tellement bien en France. Et alors,
il y a cette notion aussi de côté, c'est-à-dire de pouvoir permettre à tout un chacun comme il le veut. Alors, on a effectivement aujourd'hui avec ces grandes phases de migration qui sont dues à des contextes très précis et qui font que des gens sont obligés, sinon parce que c'est leur condition de vie, c'est leur vie est en jeu pour des tas de raisons.
Oui.
Et puis aussi ce côté, en même temps, continuer de... pour tout un chacun, qu'on soit en Suède, qu'on soit en Russie, qu'on soit dans votre pays d'origine, en Allemagne, des envies aussi de pouvoir aller dans d'autres pays et de vivre aussi à l'intérieur de ces pays, de cette richesse aussi que procure finalement de rencontrer ces cultures différentes et de s'éprouver ensemble.
Absolument. Et par exemple, pour l'Allemagne, l'exode des Huguenots, qui étaient des grandes souffrances pour les Huguenots, mais eux, ils ont emmené en Allemagne un savoir-faire, un savoir-vivre dont on bénéficie encore.
Encore aujourd'hui.
Et je crois, on pourrait très bien dire si l'Allemagne se débrouille pas trop mal sur le plan économique.
C'est à cause des Huguenots. C'est grâce à eux.
C'est grâce à eux. Il y avait au XVIIIe siècle, à Paris, un tiers de la population parlait le français.
Ce qui est incroyable.
C'est incroyable, n'est-ce pas? Et alors, je vois ça dans ma famille, où maintenant mes frères et sœurs, mes enfants sont un peu éparpillés en Europe, alors d'être heurté par les notions du 19e siècle d'une nationalité pure, d'une... scepticisme à l'égard de l'autre, parce qu'il parle une autre langue. Quelle chance que nous avons de vivre au début du 21e siècle.
Absolument.
En fait, au rez-de-chaussée, on a une pièce qu'on appelle salle de réconciliation, parce que là, j'ai mis le portrait de plusieurs personnes, également de ma famille, vécu des situations très différentes. Par exemple, il y a un arrière-grand-père qui était ministre de la guerre. On ne disait pas ministre de la défense, mais ministre de la guerre de la Saxe, et qui a participé à l'attaque de l'armée prussienne sur Paris. Alors, je suis très, très content qu'il vive maintenant
ici, en France.
Et qu'il voit que son arrière-petit-fils est très content d'être
ici.
En France, d'être accueilli par les Français et que je me déplace en vélo plutôt qu'en blindé.
Quelle belle image aussi. Mais peut-être tout ce que vous venez de dire aussi correspond à ce que vous voulez faire exister dans ce lieu. C'est-à-dire, on sent bien toute cette force aussi qui vous habite et cette volonté aussi de pouvoir mettre en mouvement là aussi ces problématiques qui aujourd'hui traversent notre propre société et la bouleversent, la met en mouvement, nous met des fois dans des espaces de suspension et des incertitudes un petit peu quelquefois douloureuses aussi,
absolument.
Inquiétantes, mais qu'il y a quand même cette force humaine dont on a parlé tout au long de cet entretien qui est là et qu'il est important de revenir effectivement à ses fondamentaux.
Oui.
Et peut-être qu'avec le projet artistique qui se déroule ici, il est emprunt aussi de cette idée de fond.
Oui. Et par exemple, nous sommes très, très contents que pour la cinquième fois cette année, on organise un petit festival de musique de chambre avec l'initiative Musetica, musique et éthique, où on a deux grands musiciens internationaux avec leurs élèves. Et en une semaine, en septembre, j'organise 20 concerts dans des institutions sociales comme la prison, comme le CPA, les écoles, etc. Et on touche à plein des gens différents.
C'est ça.
Et ça, c'est quelque chose où, de nouveau, on emmène une grande richesse. Alors là, les étudiants, comme c'est aujourd'hui le cas, les jeunes musiciens, ils viennent d'un peu partout dans le monde. Ils vont découvrir la France. Ils vont emmener de leur culture, de leur expertise, n'est-ce pas,
tout à fait.
À des gens. Et on est très, très content de pouvoir les avoir ici pendant une semaine, toute la maison sera pleine de musique. Dans chaque pièce, il y aura des gens qui...
Elle va résonner de toute son âme, entre guillemets.
Oui.
Et oui, alors, ça, rappelons que ça va être entre le 19 et le 22 septembre.
Absolument.
Hein, il y aura ce temps fort.
Oui, il y aura quatre concerts publics. Un concert ici, au domaine de la gare.
À la salle Varèse aussi, au Conservatoire National Supérieur à Lyon.
Je suis content de travailler avec les CNRS et puis avec
le Conservatoire ici, le Monastère Royal de Brou aussi,
exact,
également.
N'est-ce pas? Et ça, la démarche est de bénéficier de ces différents talents, n'est-ce pas, pour une audience aussi large que possible. Notre approche est toujours l'effort d'offrir des manifestations de qualité, mais toujours ouvert. On n'a pas vraiment une approche qui recherche l'exclusivité, mais le contraire.
C'est
très inclusif.
Et oui, et on peut tout à fait souligner, par exemple, un des concerts que vous avez eu le 4 avril dernier, concert de harpe paraguayenne, par exemple.
Oui.
Et donc, on voit cette volonté, là aussi, de faire se rencontrer, non pas se juxtaposer, mais faire que tous ces moments de partage musicaux et autres qui sont proposés à ceux et celles qui viennent ici, dans cet espace de rencontre et de dialogue, peuvent justement bénéficier de cette mise en mouvement de la pensée par l'écoute, par le paysage, par la dynamique aussi.
Absolument.
Que vous impliquez.
Oui.
Et ça, c'est quelque chose d'important.
Oui, et c'était étonnant parce que, alors, pour ce concert avec un harpiste du Paraguay, alors, au début du concert, pour être honnête, aucun de nous avait une idée du Paraguay. C'était, peut-être on savait que c'est en Amérique latine. Mais
voilà, c'était peut-être tout.
Mais cet harpiste n'était pas uniquement un grand musicien, mais vraiment un ambassadeur de toute la culture. En fait, il est ambassadeur culturel de son pays. Et en une heure, il est arrivé à... au fait que chacun de nous avait maintenant une relation émotionnelle et très forte avec le Paraguay. Et alors, on a décidé à cette époque que l'année prochaine, on aura encore une fois une grande foire d'artisanat d'art et ça sera le week-end après Pentecôte. C'est le 5 au 7 mai 2020. Et alors, on aura de nouveau ce harpiste avec un grand groupe et d'autres artistes d'Amérique latine et en plus, une trentaine des grands artistes du monde entier qui vont venir pour exposer leur art et leur artisanat d'art, mais surtout pour être disponibles pour connecter aux visiteurs. Et nous espérons, Alain, nous espérons d'avoir quelques milliers de visiteurs ici parce que tout le monde qui va rater cette occasion aurait perdu. Hein. Ça serait trop beau pour ne pas venir.
J'imagine.
Et on a énormément de chance, vous savez, que des gens avec des personnalités pleines d'inspiration sont prêts de venir, non pas à Londres, Paris, ou Francfort,
mais à Bourg-en-Bresse,
au domaine de la gare, n'est-ce pas?
Ça devient un lieu incontournable.
Voilà. Alors, on a vraiment, je dis ça avec toute humilité, qu'on est vraiment très, très content que déjà cette année, on a eu une douzaine de personnes qui sont venues et des gens, on était tellement inspirés et touchés par leurs histoires et leur volonté de partager que maintenant, on a compris, là, il faut continuer. Alors maintenant, on est parti
sur cette dynamique à fond.
Voilà, et on se réjouit, on travaille maintenant déjà tous les jours pour assurer que 5 au 7 juin 2020, ça marchera.
Alors ça me fait penser justement tout ce que vous dites à un des philosophes français, à Roland Barthes, et qui disait la chose suivante, le monde est plein de voisins discrets avec qui il faut partager l'autre. Le monde est précisément cela, une contrainte de partage. Et ça me Très semble venir en écho de ce que vous venez de dire et avec la force avec laquelle, et l'enthousiasme aussi, et l'engagement, on le sent, avec lequel et, vous venez de nous exposer un peu ce qui sous-tend, effectivement. Oui. Et peut-être, vous l'évoquiez tout à l'heure, donner du sens à celui qui ne regarderait peut-être qu'un peu en surface et qui pourrait se dire qu'il y a un éclectisme et que ça s'arrête peut-être un éclectisme de surface, mais qu'en réalité, ce n'est pas un éclectisme de surface. Mais c'est un petit peu, comme le dit justement Roland Barthes, que vous avez conscience qu'il y a des voisins discrets et qu'il est complètement nécessaire que le monde dans lequel nous sommes nous emmène vers cette contrainte du partage essentiel, permanent et qui est toujours à faire et à construire et à maintenir.
Je trouve c'est très très beau cette citation que vous venez de dire et parfois j'espère qu'on apprendrait d'être un petit peu moins discrète.
Tout à fait.
Je crois parfois on se perd avec notre discrétion.
Et à un moment donné, il faut la mettre en valeur.
Oui. Et je trouve que si on arrive à baisser les murs, n'est-ce pas, qu'on peut avoir avec cela, et je suis par exemple enthousiaste de la culture qu'on découvre ici, dans la Bresse, dans le département de l'Ain. Encore ce matin, j'ai fait un tour de vélo en Dombes et on est passé par ce paysage magnifique ces mille étangs. Oui. Alors, on a passé par une demi-douzaine de châteaux et en fait, le 18 août, on va organiser quelque chose,
un mot qui n'existe
plus, qui n'existe pas en français, qu'on a inventé, c'est château pour vélo méloman, c'est-à-dire pour les gens qui adorent le vélo.
Le vélo et qui sont mélomanes. Et...
Voilà. Alors, et on organise des concerts dans plusieurs châteaux et l'audience va aller en vélo de château
Formidable.
En château. Et alors, de nouveau, tout ça, c'est là. Bien sûr. Il faut uniquement qu'on essaie d'ouvrir les yeux.
Mettre en lien et
bénéficier de cette intensité de culture que nous avons ici en Europe, qui existe, à mon avis, nulle part ailleurs dans cette combinaison. Et pour ça, pour moi, c'est un très, très grand privilège, et pour ma femme aussi, d'être atterri à Bourg-en-Bresse, dans le département de l'Ain, en France, et de pouvoir apprendre tant de choses et de vraiment savourer cet art de vivre, cette culture qui est la vôtre.
Merci Friedrich von Kirschbach. Voilà, on arrive au terme de cette invention à deux voix. Merci de nous avoir reçus ici, chez vous, dans ce magnifique domaine de la Garde. Un lieu pour la rencontre, un lieu où la rencontre est le moteur de la culture, de la création artistique et de la dynamique de tout le projet que vous nous avez dépeint aujourd'hui dans cette invention à deux voix. Alors j'espère que vous avez eu du plaisir aussi, chers auditeurs, à vivre ce moment en notre compagnie. Cette émission de Résonance a été réalisée avec la complicité de Simon Deborne à la réalisation et à la mise en onde. Résonance sera rediffusée vendredi prochain de 14h à 15h, puis mardi de 13h à 14h. Vous pouvez bien sûr écouter et réécouter quand vous voulez et où vous voulez, aussi longtemps que vous le voulez, la présente émission à l'antenne et en podcast, sans modération, sur le site de Résonance Contemporaine, www.résonancecontemporaine.org, ou sur le site de Radio B, www.radio-b.fr. Vous pouvez bien sûr, comme d'habitude, nous communiquer vos commentaires sur la page Facebook de Résonance Contemporaine. Je vous souhaite une bonne suite et une belle journée sur Radio B. À très bientôt.